franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Avec une alerte aujourd'hui sur les maladies émergentes des plantes, à la une de la science.
À première vue, ces petites chenilles processionnaires paraissent inoffensives et pourtant, elles peuvent causer de graves démangeaisons. Ces chenilles restent au chaud tout l'hiver, perchées en haut des pins ou des chênes. Au printemps, elles quittent leur cocon et c'est là que leurs poils ont plus de chances de s'envoler. Leur territoire s'étend chaque année davantage. Les chenilles processionnaires sont aujourd'hui aux portes de Paris.
Voilà, il y a quelques jours sur BFM TV, ce sont donc des insectes, des virus, des champignons qui viennent d'ailleurs et qui font des ravages sur des plantes souvent sans défense. Et c'est une tendance mondiale, mais qui touche particulièrement le continent européen. Comment enrayer justement l'arrivée de ces nouveaux pathogènes qui voyagent d'un continent à l'autre? Comment les dépister et comment les combattre? Caroline Tourbe, on en parle avec notre invité.
Oui Mathieu, et comme tous les lundis, nous sommes en partenariat avec nos confrères de reporter.net. Bonjour Lorraine Lavocat.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous sommes au téléphone avec Alain Roch. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRA, dans l'unité de zoologie forestière à Orléans, et vous êtes l'un des grands spécialistes de ces nouveaux ravageurs exotiques. Vous avez participé à la conférence internationale sur les maladies des plantes organisée la semaine dernière par l'ANSES, et on y a partagé un constat alarmant. Les attaques contre les plantes se multiplient. C'est une tendance en fait que rien ne semble pouvoir inverser. Vous pouvez un peu nous donner l'ampleur de ce phénomène ?
Oui, alors d'abord, il faut préciser, c'est les attaques des ravageurs exotiques qui sont introduits en Europe, qui tendent à augmenter et qui augmentent même de manière exponentielle. Bon, très concrètement, il y a à peu près 1500 espèces d'insectes exotiques qui sont aujourd'hui présents en Europe et on a pu voir que la tendance à leur établissement a été accélérée durant les 40 dernières années. On est passé par exemple d'une moyenne de 9,7 espèces nouvelles arrivant et s'établissant par an en Europe durant les années 1950-1974 à aujourd'hui à peu près 15 espèces qui s'établissent par année depuis les années 90. Et cette tendance, comme nous l'avons estimé lors de la conférence, ne se ralentit pas, c'est le premier point. Et le deuxième point est que la majorité des espèces qui arrivent aujourd'hui sont des espèces qui n'ont jamais été observées comme envahissantes dans un autre continent. Pour certaines d'entre elles, d'ailleurs, elles sont même inconnues pour la science, tout simplement parce que les conditions dans lesquelles aujourd'hui elles voyagent, avec la multiplication des échanges commerciaux et la diversification de ces mêmes échanges commerciaux, font qu'elles peuvent venir de pays ou de continents avec lesquels l'Europe précédemment n'avait pas de contact direct.
Et justement, ce qui facilite le trajet de ces ravageurs, c'est donc la progression du commerce international avec l'Asie, c'est ça ?
Tout à fait. C'est-à-dire que, disons que pendant les années 1950-1970, on avait des introductions qui étaient volontaires d'insectes, par exemple pour la lutte biologique. Aujourd'hui, ces introductions volontaires ne représentent plus que de l'ordre de 10% des espèces qui arrivent. La majorité d'entre elles arrivent soit comme contaminants de plantes, et donc avec le commerce des plantes qui a explosé durant les dernières décennies, soit arrivent comme ce qu'on appelle des passagers clandestins, c'est-à-dire que elles se retrouvent dans des containers qui n'ont pas de valeur biologique pour elles, ou bien dans des pneus usagés, c'est le cas par exemple du moustique tigre. Donc il n'y a aucun lien biologique entre l'espèce en question et son déplacement. Mais cette espèce est véhiculée par l'intensification des échanges commerciaux entre les différents pays, et notamment entre l'Europe et l'Asie. Aujourd'hui, la principale source d'espèces exotiques arrivant en Europe, c'est la Chine.
Et justement,
c'est un lien évident avec les échanges commerciaux croissants.
Ces ravageurs exotiques vont arriver, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, vont arriver sur un territoire qu'ils ne connaissent pas, et pourtant ils vont se retrouver dans une situation presque idéale. Ça, c'est lié au changement climatique, c'est-à-dire que ça va leur permettre d'émerger comme jamais auparavant.
C'est lié à plusieurs choses. C'est-à-dire, c'est lié au fait que, en général, quand ils sont introduits sans leurs ennemis naturels, ce qui leur facilite aussi la possibilité de survivre. La deuxième chose, c'est que Ces insectes, quand ils arrivent, vont se trouver confrontés à des plantes qui n'ont pas évolué avec eux et qui, de fait, n'ont pas de défense par rapport à leurs agresseurs. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un insecte qui est aujourd'hui le ravageur numéro 1 sur l'ensemble de l'Amérique du Nord, qui détruit tous les frênes. C'est un tout petit insecte très joli, hein, prairie, un bupreste. Et cet insecte-là, dans son pays d'origine, la Chine, plus globalement l'Extrême-Orient, ne fait pas de dégâts sur les frênes, parce que les frênes ont coévolué avec lui. Mais dès l'instant où il se retrouve soit en Amérique du Nord, soit en Russie d'Europe, il fait d'énormes dégâts parce que les frênes n'ont aucune défense pour lui résister et lui n'a pas d'ennemi naturel, donc il peut progresser comme il veut.
Allez, Lorraine,
par ailleurs, comme vous le disiez, le changement climatique peut avoir une importance, c'est-à-dire que dans des situations particulières, des conditions climatiques empêchent les insectes, par exemple, de survivre durant l'hiver, tout simplement parce qu'il fait trop froid pour qu'ils puissent survivre. Et un très faible changement de la température moyenne hivernale va faire qu'ils peuvent survivre. Vous évoquiez au départ la processionnaire du pin, c'est exactement ce cas-là, c'est-à-dire que la processionnaire, qui est un insecte qui se développe à l'état larvaire durant l'hiver, arrive à progresser naturellement vers le nord, tout simplement parce que ces colonies ne peuvent pas survivre à moins de moins 16 degrés, mais vous savez comme moi qu'aujourd'hui, on n'a plus moins 16 degrés durant l'hiver en région parisienne, dans le nord de la France, voire en Belgique, aux Pays-Bas.
À La Roque, il y a une question de Lorraine Lavocat pour reporter.net pour vous.
Alors, vous décrivez bien effectivement comment ces ravageurs, ces pathogènes menacent finalement les plantes, les végétaux aussi, notre agriculture. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que vous, scientifiques, vous vous attelez à la dure tâche de défendre, entre guillemets, nos écosystèmes face à ces nouvelles arrivées?
Alors justement, la conférence a été quasiment intégralement dédiée à cet aspect. C'est-à-dire que là, on est confronté au fait qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Si vous prenez par exemple le petit insecte, le petit bupreste dont je parlais tout à l'heure, il n'était pas répertorié dans les listes d'insectes faisant des dégâts en Chine. Et on n'avait aucune possibilité de dire « attention, cet insecte est dangereux et c'est un envahisseur potentiel ». Donc, on est confronté à ce problème-là. Quel premier problème? Comment arriver à identifier, a priori, les espèces potentiellement invasives? Et l'INRA, par exemple, mais maintenant c'est généralisé sur d'autres organismes de recherche et d'autres pays, a mis en place des plantations sentinelles en Chine. C'est-à-dire qu'on a planté des arbres européens dans les continents qui sont censés amener les insectes exotiques envahissant l'Europe, et on regarde la colonisation des arbres européens par ces insectes exotiques. Ce qui nous permet de dire, attention, celui-là peut être dangereux alors qu'on ne pouvait pas le repérer précédemment.
Allez, Alain Roque, dernière question, parce qu'on est assez
en
retard.
Oui, alors, on a parlé de recherche.
Deuxième aspect, c'est les piégés aux frontières.
Très bien.
Et les piégés aux frontières, on a mis en place des pièges qui permettent aujourd'hui, dans un certain nombre de ports, à Roissy-Charles-de-Gaulle, d'aéroports, à Roissy-Charles-de-Gaulle, ou dans les ports de Marseille, Fos, etc., on a des pièges avec des mélanges permettant de capturer des insectes sans savoir ce que l'on recherche, c'est-à-dire des mélanges qui vont nous permettre de piéger des insectes pouvant arriver accidentellement sans que précédemment on ait aucun indice de leur arrivée.
Et puis on rappelle, Mathieu, que évidemment on évite, quand on fait des voyages lointains, de ramener soi-même des plantes et des boutures avec de la terre.
C'est une bonne idée. Merci beaucoup Alain Roque, vous êtes directeur de recherche à l'INRA. On termine par un coup d'œil sur le sommaire de reporter.net, Lorraine Lavocat.
Alors à la une aujourd'hui de Reporter, un très beau reportage dans le Morbihan, une ferme un peu spéciale où l'éleveur est autiste et accueille des stagiaires en situation de handicap mental. Donc ces jeunes apprentis agriculteurs gagnent peu à peu en autonomie là-bas.
Et reporter.net pour en savoir plus, et on vous retrouve la semaine prochaine. Caroline Tourne dès demain à la Une de la Science. Merci beaucoup. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, plus de 300 millions d'euros pour préserver la Grande Barrière de Corail. Le gouvernement australien a promis de consacrer cette somme à la restauration et la protection du plus grand récif du monde. La semaine dernière, des chercheurs ont révélé l'ampleur des dégâts subis par la Grande Barrière avec une disparition de 30% des coraux directement liés au réchauffement climatique. Or, du fait de sa dépendance aux énergies fossiles, l'Australie est considérée comme l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre par habitant de la planète. Le plan de protection présenté par le gouvernement australien servira surtout à améliorer la qualité de l'eau, à lutter contre les prédateurs et à renforcer les mesures de restauration. Toujours en Australie, la plus vieille araignée du monde vient de mourir à l'âge canonique de 43 ans. L'animal, une femelle de l'espèce Gaius villosus, a battu à plate couture le précédent record détenu par une tarentule de 28 ans. La nouvelle doyenne des araignées faisait l'objet d'une étude de suivi à long terme depuis les années 70. Et puis des cerveaux de cochon maintenus en vie pendant 36 heures. L'équipe de neuroscientifiques de l'université de Yale aux États-Unis affirme avoir réussi à préserver la circulation dans ces cerveaux détachés du corps des animaux en les reliant à des systèmes de pompe à oxygène et à des poches de sang maintenues à la température corporelle. Les cerveaux ne présentaient pas d'activité consciente car les chercheurs avaient pris soin d'injecter dans le sang des produits qui inhibent l'activité neuronale. L'expérience n'en soulève pas moins un débat éthique sur le bien fondé de telles prouesses techniques. Les chercheurs de Yale, eux, espèrent développer de nouveaux traitements contre des maladies neurodégénératives ou le cancer. Lionel Lacache, un mot sur ce type d'expérience?
Oui, alors je ne connais pas précisément ce travail, mais très globalement, oui, c'est intéressant en soi, ne serait-ce que déjà le maintien d'organes, en fait. Le maintien d'organes vivants en dehors des conditions normales, on le sait par exemple dans les questions de transplantation, de greffe, il y a tout un défi, et pour certains organes, on sait le faire. Pour le cerveau, qui est l'organe le plus complexe, ce qu'on sait faire pour l'instant même en termes de recherche, c'est garder des tranches d'hippocampe. Et il y a énormément de travaux qui ont été faits donc, qui permettent de maintenir une tranche d'hippocampe et d'étudier le fonctionnement des réseaux de neurones, etc. Alors là, selon cet article que je n'ai pas encore lu, le fait de connaître, d'identifier mieux les contraintes d'oxygénation, de vascularisation d'un cerveau entier de porc, évidemment, ça pourrait être une étape supplémentaire avec, on imagine, à la clé d'éventuelles, un peu à moyen long terme, conséquences translationnelles cliniques, quoi, des conséquences thérapeutiques. Mais évidemment, comme vous l'aviez souligné, ça soulève aussi des questions éthiques qui sont extrêmement importantes à prendre en compte dès le départ.
Allez, on continue à parler cerveau avec vous dans un instant.